Alors, je vais partager la parole de Dieu aussi ce matin avec vous. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais des fois, vous parlez avec une personne, vous êtes dans une discussion, vous êtes dans un échange, et puis cette personne vous partage sa réaction. Elle vous dit comment elle a réagi dans une situation donnée. Et alors qu'elle vous décrit comment elle a réagi, vous vous rendez compte que dans sa façon de réagir, il y a clairement quelque chose qui ne va pas. Vous êtes tous les deux enfants de Dieu. Et là, vous comprenez qu'elle a posé un acte ou une parole ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas ce qu'il aurait fallu faire. Et vous vous dites, il faut que je lui dise. On est en train de parler, on est tous les deux. Ben, si on est dans un climat de vérité, et en tant qu'enfant de Dieu, on est toujours dans un climat de vérité. Donc, vous dites, faut que je lui dise qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Et alors, vous y mettez tout votre cœur, toute votre douceur, et vous lui faites remarquer à ce frère ou à cette sœur qu'il y a quelque chose là qui est peut-être à revoir. Et alors que vous lui dites ça, vous choisissez les mots, il y a cette phrase qui sort, « Tu me juges !» Et là, vous débattez pour lui dire, « Mais non, c'est pas mon intention, enfin, non, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Oui, mais tu me comprends pas, tu... tu te mets pas à ma place, etc. » Et plus ça va, plus la conversation devient un brin compliqué, ça se tend, ça devient difficile et ça s'arrange pas. Une fois que cette phrase est lâchée dans une conversation, c'est comme si la porte est fermée, c'est comme si on n'a plus aucun moyen de reprendre, de corriger, d'exhorter, de communiquer une pensée qui est celle de Dieu. Et donc, alors bien souvent, quand on a essuyé plusieurs situations comme ça, peut-être même certains ont fini par dire, bon, moi je dis plus aux gens, parce que chaque fois que tu dis un truc, voilà, c'est mal pris, c'est mal compris, tu as l'impression que tu juges la personne, on s'en sort jamais. Donc Seigneur, moi, je laisse la correction, l'exhortation, je laisse le Saint-Esprit le faire, et moi je ne fais plus rien, parce que moi je ne vais plus avoir de problème avec personne. Or, quand on regarde la parole de Dieu, il est assez facile de faire la différence entre reprendre et juger. Vous avez compris c'est quoi mon thème ce matin ? Un thème un peu subtil, cette question de jugement. Suis-je appelé à juger ou pas? Et je disais donc que quand on regarde de près la parole de Dieu, on voit qu'il y a une nette différence entre juger ou corriger, reprendre, exhorter. La parole de Dieu nous dit déjà dans 1 Corinthiens, l'homme spirituel juge de tout. 1 Corinthiens 2,15, c'est notre texte de référence qui s'affiche. L'homme spirituel juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. J'aime bien ce verset parce qu'il y a toutes les réponses dedans. L'homme spirituel juge de tout. Il ne juge pas tout le monde, mais il juge de tout, ce qui n'est pas la même chose. Et il n'est lui-même jugé par personne, parce que nous ne sommes pas appelés à juger les personnes, mais nous sommes appelés à juger de tout. Alors, pour bien faire cette différence dans cette subtilité qui peut y avoir dans certaines situations, je voudrais, à partir d'une histoire, d'un vécu de la vie de Jésus, faire ressortir bien cette différence. Cette différence qui consiste déjà à dire, et je le dis tout de suite, à juger des actes, des situations, des paroles, des pensées. Et tout en faisant ça, on ne juge personne. On juge des choses. D'accord ? Alors, la réponse à cette question, elle est oui, sommes-nous appelés à juger ? Oui. Mais on pourrait tout de suite dire mais. Alors, il y a différentes situations. Hein. Vous pouvez mettre toute la douceur, tout le tact qu'il peut y avoir à parler à quelqu'un et à lui faire, avec beaucoup d'amour, reconnaître, enfin, voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous allez toujours vous entendre dire « tu me juges ». Parce que des fois, c'est présenté comme une espèce de paravent, de moyen de se justifier. Mais ça n'enlève rien au fait que Dieu nous demande de juger des choses. Alors aujourd'hui, je vais voir donc une première partie avec vous. Comment juger les choses sans juger la personne. Alors, je vais m'appuyer sur cette parole de Jésus, cette expérience de Jésus avec la femme samaritaine. Vous vous rappelez de l'histoire de la samaritaine qui se trouve au puits de Jacob. Donc, Jean chapitre 4 et les versets 13 à 16. Donc, Jésus a commencé à parler avec cette femme, il lui a dit « donne-moi à boire », etc. Et cette femme va lui dire « mais Seigneur, voilà, t'as rien pour puiser, l'eau est profonde », etc. Et Jésus, à un moment donné, lui dit « quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira jusqu'en vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je ne vienne plus puiser ici. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et viens ici. » Et c'est là que les soucis commencent, entre guillemets. Parce que cette femme va dire à Jésus, « Mais je n'ai pas de mari. » Jésus va lui dire, « Mais... tu fais bien de dire « je n'ai pas de mari » car en réalité, tu as eu 5 maris. Et l'homme avec qui tu vis aujourd'hui n'est pas ton mari. Et c'est toute cette façon de parler du Seigneur qui va nous aider à définir, à éclairer un peu ce propos avec la femme samaritaine. Que fait Jésus ici ? Il y a ici une femme qui est prête à ouvrir son cœur. Son cœur est ouvert. Jésus lui parle de cette eau qui va désaltérer. C'est le Saint-Esprit, en fait, qui vient faire un travail extraordinaire dans la vie de chaque personne. Et cette femme en a besoin, comme nous tous, nous en avons besoin. Mais arriver sur le moment où cette femme ouvre son cœur, et prête à accepter, Jésus sait qu'il y a un problème. Il sait qu'il y a un problème dans la vie sentimentale de cette femme. Il sait qu'il y a un truc qui ne va pas. Il sait aussi qu'elle a besoin de régler ce problème. Alors Jésus lui dit, appelle ton mari et viens ici. J'aime bien la subtilité avec laquelle le Seigneur va amener cette femme à sa situation. L'homme que tu as n'est pas ton mari. Alors, si on regarde dans nos Bibles, on va prendre la suite du verset, on va se le mettre sous les yeux. J'aurais pu continuer à afficher le texte, hein. J'ai manqué un petit peu de tact là-dessus. L'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari, Jean chapitre 4, verset 13 et le verset 17. Lorsque Jésus dit ça, il aurait pu dire, comme peut-être nous, on a pu le faire maladroitement par le passé, comment ça ? Tu as eu 5 maris, mais tu es une femme adultère. Tu vis dans le péché, là, il y a un truc qui ne va pas, il faut mettre ta vie en ordre avec Dieu. pas vous, hein, mais il y a des fois, moi, j'ai commis des erreurs comme cela, à ma courte honte, hein, et là, je ne plaisante pas. Hein. Et là, quand on lit ce texte de Jean, mettez-le sous vos yeux, sortez vos Bibles, vous allez voir que Jésus n'emploie pas de mots qualificatifs, si j'ose dire. Vous avez remarqué? La femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu en as eu cinq, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. » Le premier enseignement qu'on peut sortir de cette manière de Jésus d'aborder un problème, c'est que Jésus ne confond pas cette femme avec son problème. Tu as eu cinq maris, l'homme avec qui tu vis n'est pas ton mari. Jusque-là, Jésus ne lui a pas dit que tu es ceci, tu es cela, comment ça se fait que tu n'as pas fait telle chose, tu aurais dû faire telle chose. On n'a pas ça dans le discours de Jésus. Et là, je relève une première chose. Le problème d'une personne, la faiblesse d'une personne, la difficulté d'une personne, le penchant d'une personne, l'addiction d'une personne ne détermine pas ce qu'elle est. Nos fautes ne déterminent pas qui nous sommes. Amen. Et c'est ça la principale chose, le principal élément à mettre en lumière dans la question du jugement, c'est cela. Et c'est souvent dans ce petit piège qu'on peut être tenté de tomber. Quelqu'un qui, manifestement, on s'aperçoit que, je ne sais pas moi, qu'elle ment, lui dire « tu es un menteur », on est dans le jugement. Mais dire à quelqu'un « ben non, 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 il ne faut pas que tu dises ça, parce que ça, c'est un mensonge ». Ce n'est pas la même chose. Je distingue la personne de ce qu'elle fait. Amen. Et quand nous disons à quelqu'un qui s'est mis en colère, « Ouais, mais toi, tu t'emportes, tu es rempli de colère, faut que tu pries Dieu pour qu'il te débarrasse de ta colère. » Là, la personne... Et le Seigneur nous dit non, 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 c'est comme si le Saint-Esprit nous reprend et nous dit non. Non, 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 non. Tu as certainement en face de toi une personne qui est prisonnière elle-même de sa colère. Et peut-être qu'elle veut en sortir, parce que d'ailleurs, qu'a fait Jésus dans notre vie? Il nous a libérés. Ça veut dire qu'il a ouvert la porte de notre prison. Et il nous a dit, tu peux sortir, mais c'est à nous de sortir. Donc des fois, on a une personne devant nous, la porte de la prison est ouverte, et cette prison s'appelle la colère, ou ça s'appelle le mensonge, ou ça s'appelle je ne sais pas quoi, la tricherie, ou, je sais pas, ça s'appelle n'importe quoi, ça s'appelle les paroles violentes. Cette prison, elle est ouverte. Et la personne s'apprête à sortir. Mais elle est sur le seuil, mais elle n'est pas complètement sortie. Donc c'est compliqué, parce que vous savez, elle a passé un moment dans la prison. Vous savez, quand les gens ils ont passé un moment dans quelque chose... Il y a des choses qui restent imprégnées en elle. Et donc, des fois, il y a des rechutes. Mais notre rôle à nous, c'est d'attraper cette personne et la faire sortir de cette prison. Mais si maladroitement, je lui dis « Oui, mais t'es violent dans tes propos. » C'est comme si je repousse la personne au fond de sa prison. Tuer. Comme si je lui dis « Tuer cette chose. » Donc, il y a une... C'est comme si je lis cette personne à sa faute. Sa faute et elle n'en font qu'une dans la parole qui juge. Mais dans la parole qui ne juge pas, il y a une séparation entre la personne, l'individu et ce qu'elle a fait. C'est pour ça que Jésus ne parle que des actes. Quand il parle à la femme samaritaine, « Oui, mais l'homme que tu as... » n'est pas ton mari, etc. Jésus n'a jamais parlé d'elle pour dire « Comment ça se fait que tu fais une telle chose ? Enfin, qui es-tu ? Quel genre de femme es-tu ? » Parce que c'est sa situation, cette femme. Elle vient puiser de l'eau. Si on regarde l'intégralité du texte, vous connaissez bien ce texte. Hein, voilà, cette femme, quand elle vient puiser de l'eau, il est environ la sixième heure. La sixième heure sur comment dire, le système d'éveil romaine et des heures romaines, la sixième heure de 6 heures du matin, elle vient puiser de l'eau à midi. Chez nous, aux Antilles, alors plus maintenant on a de l'eau courante qui arrive, mais je me rappelle quand j'étais enfant, il fallait aller chercher l'eau à la source. Bon, j'avais 4-5 ans, hein. On n'avait pas encore déménagé, tout et tout, c'était une période un peu difficile, mais bon, voilà. Et on allait chercher l'eau à 2 heures possibles, soit le matin, vers 8-9 heures, ou alors tu allais chercher l'eau à 16 heures. Mais tu ne vas pas chercher l'eau à midi, quoi. Déjà, elle n'est pas fraîche. Et puis tu marches sous le cagnard, passez-moi l'expression. Donc on va chercher l'eau à la fraîche. Et c'est la même réalité. Pourquoi cette femme, elle va chercher l'eau à 7 heures? Parce que personne ne va chercher l'eau à 7 heures, justement. Donc quand elle y va, elle est toute seule. Elle croise personne. Et il n'y a personne qui peut lui dire « Hey, est-ce que vous avez vu la traînée, là? Elle est en train de... » Ouais. Et puis les gens... On est dans une société... Dans une société orientale, hein. Et puis surtout il y a 2000 ans, et tout ça, ça pèse sur sa personne. Tout ça, ça la marque, ça la blesse, ça la diminue, ça l'écrase. Elle est jugée, elle est écrasée par tout cela. Jésus le sait, donc Jésus va au puits à midi, lui aussi. Et Jésus parle à cette femme d'une manière totalement différente de comment on lui parle habituellement. Il faut savoir que nous avons un accusateur. Le diable est un accusateur. Au moindre faux pas que tu fais, il ne manquera pas de te juger, va même de te condamner. Comment il va faire? Ben, il va justement employer des verbes qui qualifient, des adjectifs. Tu es un menteur, tu es un tricheur, tu es un... Voilà, quelqu'un qui parle mal aux gens. Tu es violent, tu es... etc., etc. Tu es. C'est ainsi que le diable nous parle. Ça peut arriver que je glisse. Ça peut arriver un moment, tu es pris de court, voilà, ou alors il y a un mouvement, il y a plusieurs personnes, des collègues, j'en sais rien, des camarades de lycée qui font quelque chose, et puis dans le mouvement, tu es emporté, tu fais la même chose, tu n'as pas réfléchi, et puis tu as fait un truc machinalement parce que tu as toujours fait comme ça, et à un moment donné, tu prends conscience. Mais avant que tu prennes conscience, tu es dans le mouvement, tu es dans un automatisme, tu es dans le côté soudain de la chose. Mais ce n'est pas parce que tu es dans ce schéma-là de ne pas avoir réfléchi profondément à quelque chose ou d'avoir fait quelque chose un petit peu sous l'élan d'un sentiment, ça ne fait pas de toi quelqu'un qui est empêtré ou qui pratique sciemment cette faute, ce mensonge, cette colère, comme quelqu'un qui pratique un sport tous les jours. Allô, allô? C'est une chose de tomber dans les péchés, c'est autre chose que de pratiquer le péché. Donc ici, cette femme, avec cette femme, Jésus va s'appliquer à faire tout le contraire. Il va chercher constamment à séparer cette femme de sa faute. Éviter de la lier avec en lui disant « tu es ci, tu es ça, tu es ceci, tu es cela ». Séparer cette femme de sa faute, de sa faiblesse. Jésus va lui parler des faits, des actes, et non pas d'elle directement. Alors évidemment, je pense que ce n'était pas tout. C'est pas tout. Je pense que Jésus a exprimé aussi des choses. Vous savez, quand on lit un texte, le texte ne rend pas l'expression du visage. Le texte ne rend pas les sentiments. Le texte ne rend pas non plus le rythme avec lequel on peut dire les mots. Et tout ça, ça compte aussi. Et on peut très bien imaginer que Jésus, dans la manière de parler, a dû s'y prendre d'une manière spéciale. Il y a quelque chose qui me frappe dans ce que dit la femme. Parce que cette femme, touchée par Jésus, va courir au village et touchée, merci, émerveillée dans son élan, elle va aller au village et elle va dire aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Et moi, ce style d'évangélisation-là m'a toujours frappé chez cette femme. Jésus vient de te parler. Tu vas l'annoncer aux gens. Je ne sais pas, tu vas dire, voilà, cet homme, il m'a dit que je serai quelqu'un d'extraordinaire, que je vais devenir une source, je vais faire des choses extraordinaires. Il m'a dit qu'il y a un grand appel sur ma vie. Cet homme-là, il m'a rendu heureux, je me sens vraiment bien. Venez voir cet homme. Moi, c'est ce que j'aurais dit. Mais cette femme, je suis toujours un peu surpris, elle dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Est-ce que vous iriez dire, moi j'ai rencontré Jésus, et Jésus il m'a dit, que j'étais un tricheur, venez voir Jésus, Jésus m'a dit que j'étais un menteur, venez, il m'a dit tout ce que je suis, il m'a dit que je... Mais non, je veux pas trop faire ça, quoi. Non, je ne veux pas dire... Je veux trouver autre chose. Et je me suis posé la question, mais pourquoi cette femme a choisi cette façon, cette méthode? Venez voir. Alors, évidemment, elle a dit à Jésus, tu es prophète, etc. Dans la discussion, on peut comprendre. Mais Seigneur, mais comment tu sais ça? Mais Seigneur, tu es prophète. Oui, dans le 2 à 2, je comprends qu'elle dise ça. Mais pour proclamer, venez voir cet homme, pourquoi? Et il m'a dit tout ce que j'ai fait, que voilà, que j'avais 5 maris, et tout, et tout. Ah bon? Nous, on ne va pas le voir, ton gars. Bon, même si elle n'a pas dit cette précision. Mais j'ai réfléchi, j'ai laissé aller ma réflexion et je me suis dit, cette femme, je crois, a été beaucoup plus touchée par la manière dont Jésus lui a parlé d'elle-même et de ce qu'elle a fait, plus que la perspective de devenir une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Autrement dit, je crois que Jésus a passé plus de temps à dire à cette femme qu'elle était plus importante que ce qu'elle a fait. Et ça, bien aimé, c'est valable dans tous les domaines. Même dans un meilleur service où on serait brillant, avec des fruits spirituels extraordinaires. Même dans ce cas-là, nous sommes plus importants que ce que nous faisons. À plus forte raison, si ce que nous avons fait, c'est des choses qui ne sont pas glorieuses, des choses qui n'étaient pas belles, et par lesquelles peut-être des personnes nous ont exhortés, etc., ou comme Jésus l'a fait, malgré tout, malgré toutes les erreurs, tu restes plus important que ce que tu as fait. Et j'ai envie de dire que c'est ça qui régit un peu notre façon de parler et qui nous garde du jugement. Comment Jésus a-t-il parlé? Parce que ça, comme je disais tout à l'heure, ça ne ressort pas du texte. Mais si la femme a dit « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait », ça l'a certainement marqué parce que l'expression de Jésus devait être une véritable expression de compassion. Parce qu'on a en face de nous quand même quelqu'un qui a fait des bêtises. Hein, donc Et là, Jésus va mettre... On peut très bien l'imaginer s'agissant de Jésus, qu'il a parlé avec beaucoup de compassion. Ça ne se voit pas forcément dans le texte. Jésus, certainement, à parler avec beaucoup de calme dans le rythme des paroles. Ça joue aussi. C'est une chose de dire à quelqu'un, ah bon, t'as eu 5 maris? Et c'est autre chose de dire, ah oui, tu as eu 5 maris, mais l'homme avec qui tu vis aujourd'hui, ben il n'est pas ton mari. Le rythme des mots a son importance. La douceur de la voix aussi. Ben, c'est pas ton mari, quoi. Enfin. Et puis dire, oui, mais c'est pas ton mari. Et j'imagine Jésus en train de fixer cette femme aussi avec beaucoup de tendresse dans le regard. Une façon, l'expression, vous savez, des fois, l'expression d'une personne qui nous a regardé ou nous a jeté un coup d'œil parle plus que ses mots. Oh là là, il m'a regardé, là, il m'a fusillé. Il ne vous a rien dit. Hein. Notre manière de regarder, et j'imagine Jésus en train de regarder cette femme et de l'accueillir littéralement dans son regard. Sa façon même de la regarder lui disait certainement déjà « Bienvenue ». Déjà, Jésus est venu au puits, il s'est assis et il l'attendait. Il l'attendait. Alors, tout ça, ça ne se voit pas dans le texte. Mais toutes ces choses montrent à une personne qu'elle est plus importante. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a commis? Par-dessus tout, ce que nous allons exprimer et ce que Jésus va montrer par-dessus tout, l'élément qu'on va faire passer, c'est l'amour en fait. On est en train de dire à cette personne qu'elle est aimée, qu'elle est la bienvenue, qu'elle est acceptée. Bien qu'il y ait cela, mais elle a tellement de valeur que rien de ce qu'elle fait ne peut altérer sa valeur au point qu'on la rejette. Amen. Donc ça part d'une intention du cœur. Et puis, ce qu'on va exprimer aussi, on peut le dire, c'est aussi de dire à une personne, mais ce que tu as fait n'est pas digne de toi, enfin. Tu es fils du roi. Tu es fille du roi. Donc, ces choses-là n'appartiennent pas à la noblesse de ton rang. Dieu a pour toi des choses plus belles, enfin. Des choses qui correspondent beaucoup plus, beaucoup mieux à qui tu es à ses yeux. Rappelle-toi quand le fils prodigue qui a traîné avec tout un tas de personnes quand il arrive à la maison. Le père lui dit, mais cette tenue que tu as n'est plus digne de toi. Apportez ce qu'il y a de plus beau dans la maison et revêtez-le. Amen. Tu mérites le plus beau vêtement. Et dans la parole de Dieu, le vêtement signifie aussi nos actions, ce que nous avons fait. Il nous a revêtus de justice. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève vont être revêtus par le Seigneur. Donc le vêtement... Et c'est comme si le Seigneur dit, voilà, tu as fait des choses qui ont un peu taché l'image que je me fais de toi. Enlève-moi cette robe, enlève-moi tout ça. Voilà, c'est comme ça que je te vois, avec ce qu'il y a de plus beau. Donc, éviter de juger, c'est ainsi valoriser la personne à la valeur que Dieu lui donne. Amen. Lui donner le prix qu'elle représente aux yeux de Dieu. Alléluia. Ce que tu es, ce que tu es est beaucoup plus important que ce que tu fais. Ce que tu es est beaucoup plus important que ce que tu peux faire. Vous savez, il y a ce texte d'Apocalypse qui me vient à l'esprit. Ce texte où Jean dit, voilà que les chrétiens, ils arrivent dans la vie éternelle et il ajoute, leurs œuvres les suivent. Vous avez déjà vu ce texte? Les œuvres ne sont pas devant. Pourtant, ce sont de bonnes œuvres. Mais Jean dit, les œuvres sont derrière, nos œuvres nous suivent, elles ne nous précèdent pas. Et si on va encore plus loin, bien-aimé, ce qui est sous-entendu dans ce verset, c'est que on a besoin, nous, de faire des vraies démarches. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas, je crois, à ce stade de relation avec une personne qui peut-être manifestement a besoin d'être repris. On n'arrive pas par hasard dans cette capacité à faire la différence, à la mettre en valeur sans la juger. On n'arrive pas à ça un beau matin, par hasard, on s'est réveillé et boum, on arrive à parler avec douceur, avec amour. Voici ce que Paul dit pour éclairer un peu plus ce que je suis en train de vous dire. Romains 14, verset 13, l'apôtre dit, « Cessons donc de nous condamner les uns les autres. Prenez plutôt la décision. » Prenez plutôt la décision de ne rien mettre en travers du chemin d'un frère ou d'une sœur qui puisse le faire trébucher ou tomber, ou l'affaiblir, ou le décourager. Enfin bref. Donc, à côté de cessons de condamner les uns les autres, Paul dit, prends une décision. Prends une décision devant Dieu. Il ne suffit pas d'avoir de bonnes intentions. C'est bien d'avoir de bonnes intentions. Mais là, la porte nous appelle à faire quelque chose qui va amener un changement, une transformation. C'est comme quelqu'un, vous lui avez parlé de Jésus, waouh, c'est génial, Jésus, c'est quelqu'un de formidable. Et puis à un moment donné, vous lui dites, est-ce que tu veux te décider pour Jésus? Ouais, mais on va voir ça à un autre moment. Mais c'était bien ce que tu as dit. C'était très, très bien. J'ai beaucoup aimé, mais ce sera... Bah, écoute, il faut que tu prennes une décision, quoi. Les bonnes intentions, enfin, voilà, les éloges, ça ne suffit pas. Et c'est comme si l'apôtre nous fait prendre conscience de quelque chose, décide quelque chose. Ne pas juger, en clair, c'est quelque chose d'intentionnel. C'est intentionnel. Quand je veux reprendre, j'ai bien conscience de cela et j'ai anticipé la chose. En clair, on pourrait dire aussi, si tu n'es pas sûr d'être, entre guillemets, équipé pour reprendre quelqu'un sans la juger, ne fais rien plutôt. S'il n'y a pas une décision, moi j'ai envie de te dire, mais devant ce verset, j'ai envie de dire, si tu n'es pas sûr de toi, ne fais rien. Vaut mieux ne rien faire que de blesser. Vaut mieux ne rien faire que de repousser quelqu'un dans sa prison alors qu'elle avait déjà un pied dehors. Elle avait plutôt besoin de quelqu'un qui lui tende la main ou qui lui prenne la main, qui lui dit « Viens, 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 viens. T'es pas digne de cet endroit. C'est le moment de sortir de là. T'as raison, t'as raison. Ouais, ouais, t'as trébuché. Mais oui, mais forcément, forcément. Viens te mettre en sécurité par ici. Sous la grâce de Dieu. » Amen. Alors, prends une décision. Prends une décision en tant qu'enfant de Dieu, une décision qui consiste à dire, Seigneur, maintenant que voilà qu'on en parle, plus jamais ça. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Vous savez pourquoi ce texte il est très important? pour moi, c'est parce qu'un jour Dieu m'a fait passer par là. En tant que pasteur, hein. Alors aussi en tant que pasteur, un jour il a fallu que le Seigneur me dise « Oh, qu'est-ce que tu as fait là ? T'as fait quoi là ? T'as dit quoi là ? À ce chrétien ?» Et là, moi je suis entré en moi-même. Et j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Le Saint-Esprit n'était pas d'accord avec la décision que j'avais prise. Je ne veux pas trop prendre du temps, je ne vais plus vous raconter cette histoire. Hein. Et j'ai dit, Seigneur, plus jamais ça. J'ai enfermé cette personne dans son problème, de la manière dont... Et d'ailleurs, la personne est partie en pleurant. Alors ce jour-là, je ne pleurais pas, mais le jour où le Seigneur m'a fait remarquer ça, moi, à mon tour, j'ai pleuré. Et le truc, bien-aimé, c'est que j'étais persuadé de bien faire. Et des fois, on est persuadé de faire bien parce qu'on fait comme on nous a appris. Mais il y a des fois, bien-aimés, où le Saint-Esprit va devoir nous désapprendre certaines choses pour nous apprendre sa façon à lui de faire. Amen. Est-ce que seulement tu es prêt à désapprendre certains fonctionnements pour laisser le Saint-Esprit te réapprendre certaines choses? Ça a été mon cas. Je vous l'avoue en toute simplicité. Ça a été mon cas. Des fois, on posait des jugements. C'est comme ça. Quand on est chrétien, évangélique, c'est comme ça. Puis, et quand on analyse les résultats, parce que le Saint-Esprit nous fait analyser les résultats, parce qu'il y a les fruits. Quand on parle vraiment en étant animé et des intentions et du caractère de Dieu, les fruits doivent suivre et ressembler aussi au caractère de Dieu. Et c'est là où le Saint-Esprit m'a attrapé. Il m'a dit, que sont devenues les deux personnes? Parce qu'il y en a eu deux. Hein. En 20 ans de ministère, on a le temps de faire des bêtises, le pasteur. Mais heureusement, on fait pas que ça. Alléluia. Dieu est bon. Et il m'a dit, mais que sont devenues ces deux personnes? Ben, à un moment donné, elle ne venait plus à l'église. Je n'étais pas fier. Et jusqu'ici, je ne suis pas fier. Prenez donc la décision. On va faire ça tout à l'heure. Je vais terminer maintenant. Il y a bien d'autres choses, bien aimé, hein, qu'on devrait prendre. Parce que l'amour, c'est Paul qui le dit dans Éphésiens aussi, nous professons la vérité dans l'amour. Mais nous professons la vérité. Et donc, il y a aussi d'autres choses à mettre en lumière sur cette question de juger et de dire la vérité, il faut le dire et également. Donc on a vu cette manière de faire dans cette partie d'aujourd'hui. Voilà, on va voir peut-être une prochaine fois comment le Seigneur va me diriger. Voilà. Alors, donc, évitez de faire trébucher un frère ou une sœur. Tout cela rejoint, encore une fois, l'amour tout simplement. Et ce texte qui couronne un peu tout mon propos de ce matin, il fallait le citer. Maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui appartiennent à Jésus, Romains 8, verset 1er. C'est le texte par excellence, entre guillemets. Parce que, alors, il faut-il préciser aussi, des fois, dans la parole de Dieu, juger, c'est condamner. Les deux mots vont souvent ensemble. Très souvent, juger, c'est condamner. Et bien, parce que le péché, il est condamnable. C'est pour ça que Jésus meurt en croix. Donc, quelqu'un qui est jugé, souvent la condamnation est presque prononcée en même temps, et cette personne se retrouve sous la condamnation. Et elle se condamne elle-même. Et là, l'adversaire se frotte les mains parce qu'en attendant, elle ne se relève pas. Bien aimé, ça peut aller très, très, très loin. Ça peut aller très loin. On a, je ne vais pas revenir dessus, mais ça va certainement évoquer des choses avec vous. Il y a une personne qui a été jugée comme cela de manière légaliste, mais avec une rigueur légaliste où elle était liée avec la bêtise qu'elle avait faite. Quand cette personne est arrivée dans cette église et que moi, j'avais déjà appris les leçons que Dieu m'avait demandé d'apprendre, donc du coup, j'avais déjà changé. Et heureusement pour elle. Et lorsqu'elle est arrivée dans cette église et que on lui a présenté les choses différemment, pas seulement moi, on l'a littéralement sauvée du suicide. On a évité un suicide. Mes deux frères qui sont là, mes frères et sœurs, Ange et Gérard, c'est eux qui sont entrés en scène dans leur groupe de maison pour éviter un drame littéralement, qui était arrêté dans le temps. La sœur était sous la condamnation d'une parole d'église et de pasteur. C'est pas que les chrétiens qui sont dans cette... Vous savez, lorsque nous, on se positionne pour parler, etc., on est beaucoup plus exposés. D'ailleurs, Dieu va nous demander beaucoup plus de comptes qu'à n'importe qui d'autre. Elle avait été enfermée par une parole de pasteur. Et à un moment donné, elle a dit, c'est comme ça, terminé. Donc, se sentir condamné, ça peut prendre des graves tournures. Que Dieu nous garde. Donc, l'amour va plutôt chercher à tendre la main, c'est mon dernier point. L'amour tend la main afin de relever. La grâce de Dieu, nous est-il dit dans Romains, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc tout cela nous alimente encore dans notre façon d'aborder la faute de quelqu'un. La façon de l'aborder va être dans la grâce, dans la diffusion, dans la propagation de la grâce qui fait partie de l'amour, parce que la grâce est contenue dans l'amour. Il n'y a pas d'amour sans pardon, il n'y a pas d'amour sans grâce. D'accord ? Donc, cette grâce de Dieu, il faut qu'elle coule de moi aussi. Il faut que je sois un homme de grâce. Si je ne suis pas un homme de grâce, n'hésitez pas à venir me le dire. Si tu t'es senti condamné par ton pasteur, vous me connaissez maintenant, on est dans la pratique de la parole de Dieu, on n'est pas dans la théorie. Si tu t'es senti condamné, ben viens parler avec moi. Ne reste pas sous la condamnation, sous la mienne en plus. Ne reste pas sous une parole, parce que je peux encore être maladroit, bien aimé. Sans vous, je ne pourrais pas beaucoup évoluer. Mais grâce à vous, j'ai déjà fait des progrès. Il y en a parmi vous qui sont déjà venus me dire des choses qui m'ont permis d'avancer. Nous sommes là pour mutuellement nous encourager à grandir avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut, bien aimé, incliner nos fronts pendant juste quelques instants? Et peut-être on peut pendant quelques instants dire au Seigneur, « Seigneur, je prends la décision solennelle. » Non pas que je jugeais les gens avant, non pas que j'étais quelqu'un de légaliste, qui assénait des condamnations, pas forcément, mais simplement parce qu'on n'avait pas pris conscience de ça. Moi, c'était parce que je n'étais pas suffisamment conscient de tout cela. Jusqu'au jour où le Saint-Esprit est venu m'interpeller là-dessus. Peut-être que le Saint-Esprit t'interpelle sur la question ce matin parce que tu ne t'étais jamais laissé interpeller ou tu n'avais jamais été. Alors c'est le moment de dire, Seigneur, je ne veux pas tomber, je veux faire attention. C'est tellement grave de garder quelqu'un sous la condamnation ou de la rejeter dans son problème alors qu'elle veut en sortir. Seigneur, donne-moi le langage de la grâce. Alléluia. Donne-moi l'expression de la grâce. Bien-aimé, est-ce qu'on peut prier cette prière pendant quelques instants, même si c'est au fond de nos cœurs, ou si peut-être que tu as envie de le dire à haute voix, fais-le à haute voix, bien-aimé. On est libre dans la maison de Dieu, on est simple dans l'humilité aussi.